mode d'emploi.
Bonsoir. Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Ce soir, vous entendrez des témoignages, des interventions d'Evelyne Perrin, qu'on ne présente plus, de Christian Seldran, président du réseau SSM, de Dil Merkling, collectif national pour les droits des femmes, et d'Anna Azaria, Femme Égalité Collectif. Dans le cadre de la réunion publique sur la souffrance au travail des femmes qui s'est déroulée le 15 mai 2013 à la Bourse du Travail.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas qui organise le débat, on est un réseau qui regroupe des salariés, syndiqués ou pas, de plusieurs syndicats et des chercheurs et des militants. Parce qu'il y a 2 ans, on était effrayés par le nombre de nos copains et copines qui avaient soutenu des luttes diverses et variées, qui craquaient, qui faisaient des grosses dépressions, ou alors qui dénonçaient des méthodes de gestion du personnel, des méthodes de management, disons, qui les rendaient en grande souffrance, ou qui les culpabilisaient, ou qui les faisaient passer pour des débiles. Et donc, effrayés par cette hécatombe autour de nous, on a créé un réseau ouvert à tous, qui n'est pas le seul à exister. Il y en a un qu'on a découvert il y a quelques mois qui existe aussi pour les gens de la fonction publique hospitalière, État, collectivité locale, parce que même dans les secteurs publics, les méthodes qui ont commencé dans le privé, qui visent à culpabiliser les gens, les déstabiliser, casser les collectifs de travail pour que les gens soient isolés, se sentent coupables et qu'après on leur fait comprendre qu'il vaudrait peut-être mieux qu'ils prennent la porte ou alors on les fait tomber malades ou même se suicider malheureusement dans beaucoup de cas maintenant. Donc notre but est de faire connaître ce qui existe déjà, qui peut être fait ici ou là, là où il y a souvent des syndicats et il n'y a pas des syndicats partout, hélas, notamment dans les petites boîtes. Donc, faire connaître les outils de résistance, les moyens de défense et les expériences de lutte individuelles et collectives contre ce que nous appelons le management par le stress. Donc, le réseau s'appelle Stop Stress Management. Ou encore, on peut l'appeler une organisation du travail qui a été importée des pays anglo-saxons et qui maintenant se généralise des entreprises privées aux entreprises publiques pour accélérer les fermetures d'entreprises, les diminutions d'effectifs, la privatisation rampante d'à peu près tous nos services publics. Voilà, j'arrête là. Donc ce réseau vous est ouvert. Il y a maintenant des ateliers de parole gratuits que nous ont proposés l'année dernière 2 amies psychologues du travail, qu'elles ont renouvelé cette année à 4 psychologues du travail, qui sont ouverts pour des salariés en souffrance. Mais pour le moment, on démarre, donc c'est sur quelques mois, une fois tous les 15 jours, c'est déjà clos, hein, la liste, ils sont presque finis. On a aussi des débats une fois par mois, si on peut, sur chaque secteur. Alors, on en a eu sur France Télécom en décembre, automobile en janvier, en février sur Pôle emploi et en mars sur les chômeurs et les précaires, puisque vous savez qu'il y a eu une immolation de chômeurs devant un Pôle emploi, mais c'est pas pour culpabiliser les gens de Pôle emploi, qui deviennent fous aussi dans la façon dont on les fait travailler. Donc là, vous avez un débat sur les femmes, comment elles souffrent au travail et comment elles résistent. Parce que notre optique, ce n'est pas de pleurer, c'est de se donner les moyens de résister. Et en juin, il y aura la poste et après, on fera le nettoyage, les centres d'appel. On fera, malheureusement, c'est partout. C'est une sorte de cancer qui se développe dans la société. J'étais un peu longue, excuse-moi, Odile.
Christian, tu veux présenter le déroulement?
Donc, je vais compléter ce que vient de dire Evelyne Perrin. Notre objectif, c'est de regarder exactement ce qui se passe dans la société actuelle. Ce qui se passe, c'est un système de destruction de la civilisation et de destruction des personnes. En clair, les techniques de management qui viennent du taylorisme... Alors, pour vous amuser, je vous rappelle que... le portrait d'Henry Ford se trouvait dans le bureau d'Adolf Hitler. Voilà, c'est des petits amis de plus de 30 ans. On est dans une logique totalitaire comme ça. Et en fait, ce à quoi on assiste actuellement avec ces méthodes, ce sont des méthodes pour rendre les gens fous. OK ? Alors four, ça veut dire que ils n'ont plus de repères pour fonctionner normalement, et ça aboutit à des suicides, ça aboutit à l'impossibilité de voir clair dans leur situation professionnelle, et notre détermination est absolue. On ne cédera pas en face de gens qui sont des destructeurs de l'humain. Alors, ici, c'est un lieu, c'est un moyen de se battre, ça n'est pas le seul, nous avons d'autres engagements. Voilà, je n'en dirai pas plus, tout a été dit, je donne la parole à Odile Merkling qui va présenter le sujet très concret et très précis de ce soir.
Alors bon, je vais introduire ce débat, et puis ensuite il y a Anna Azaria de Femmes Égalité qui va également parler de la pénibilité du travail des femmes dans certains secteurs particuliers. Et puis, comme je sais qu'il y a dans la salle quelques syndicalistes, notamment de la distribution ou des services à la personne, on leur donnera après la parole pour qu'ils puissent ou qu'elles puissent témoigner. Voilà. Alors, je commencerai par quelques références essentielles. Bon, j'ai mis un petit document avec une bibliographie et quelques données sur la comparaison de la pénibilité des emplois entre les hommes et les femmes. C'est un document qui est fait par la DARES. Donc c'est un document que j'ai reproduit qui est sur la table là-bas. Donc il y a quelques références très importantes. Par exemple, Daniel Kergoat, « Se battre, disent-elles » aux éditions La Dispute. Marie Peset, « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Et bien sûr, Florence Aubenas, le quai de Ouistreham, la brochure de Femmes Égalité au bas salaire, rien d'impossible, que vous pouvez trouver sur la table là-bas, je pense. Et puis également une brochure qui est ici sur la campagne sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes maintenant, donc qui rend compte d'un meeting qui a eu lieu à la Bourse du Travail de Saint-Denis le 20 octobre 2012, donc avec à l'appel de plusieurs associations de femmes. Puis mes propres livres. Donc en 2011, j'ai publié « Femmes de l'immigration dans le travail précaire » au sujet des modalités de travail de femmes immigrées ou filles d'immigrés et des conflits qu'elles ont menés dans certaines entreprises, alors nettoyage, distribution, service à la personne. J'ai rendu compte ensuite dans un autre livre des parcours individuels de ces mêmes femmes et leur insertion professionnelle est fortement conditionnée par la double journée de travail, c'est-à-dire le travail domestique et le travail professionnel. Leur parcours témoigne de nombreuses situations de discrimination, harcèlement, violence. Et bien que ma recherche n'était pas spécialement centrée sur ce sujet-là, je les ai très fréquemment rencontrées. Donc beaucoup des personnes dont nous allons parler ont toujours connu la précarité du travail, ce qui est quand même une situation un peu différente de celle dont nous avions déjà parlé jusqu'ici dans notre séminaire, par exemple France Télécom ou l'industrie automobile, où on avait des salariés qui connaissent la souffrance au travail, mais tout en ayant eu tout de même des statuts relativement sécurisants. Là, les femmes que j'ai rencontrées ont des parcours souvent chaotiques, avec une pluriactivité, des changements d'employeur assez fréquents. Et donc la souffrance n'est pas vécue de la même manière, parce que ces femmes ont toujours eu très peu de possibilités de valorisation et certaines n'ont jamais pu se construire réellement une identité professionnelle. Elles ont peu de possibilités de formation, beaucoup de risques d'accident, de maladie, etc., et le collectif de travail, souvent, soit il n'existe pas, soit en tout cas il est très dispersé et éclaté. Il faut ajouter que ces femmes constituent souvent une main-d'œuvre captive dans certains secteurs. Et on se rend compte que des hommes qui travailleraient dans des conditions semblables, et il y en a, hein, par exemple, il y a des caissiers de supermarché, il y a des valets de chambre qui font le ménage dans les chambres d'hôtel, etc. Mais ces hommes-là, en général, ils partent assez vite parce qu'ils ont quand même davantage de possibilités de se reconvertir dans d'autres domaines et que de rester là où vraiment le travail est éreintant et très mal payé. Donc, nous avons une segmentation des emplois entre les hommes et les femmes. Les métiers sont genrés et les formes de pénibilité également sont genrées. Donc cette étude de la DARES, dont vous avez le document là-bas, a construit des indicateurs provisoires de risques psychosociaux au travail et qui permettent de comparer justement la pénibilité des emplois des hommes et des femmes. On voit que les femmes connaissent davantage de stress, de fatigue nerveuse et que beaucoup d'emplois qu'elles tiennent nécessitent des compétences relationnelles et une grande capacité de maîtriser ses émotions.
Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure. Les hommes, un homme, à chacun sa révolution. Aurais-je seulement trois compagnons qui partagent l'indignation d'un homme.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Et nous écoutons maintenant Odile Merkling sur le harcèlement au travail.
Elle travaille plus souvent en relation avec un public, 75%. Très souvent, il s'agit de personnes en détresse, notamment dans la santé ou le travail social, 45% des femmes au lieu de 30% des hommes. Il y a une responsabilité sur la vie des personnes dans le domaine de la santé. Il y a une invisibilité et un isolement des femmes qui travaillent chez des particuliers. Et certains emplois nécessitent à la fois des capacités physiques et des compétences relationnelles, par exemple pour aider les personnes âgées. Eh bien, en fait, c'est un travail qui est physiquement aussi assez lourd. On a des maladies professionnelles assez spécifiquement féminines. Troubles musculo-squelettiques, c'est à 60% des troubles qui sont féminins. Canal carpien, cancer lié à l'exposition de certains produits toxiques, atteinte de la sphère gynécologique, par exemple l'absence de règles. Puis d'autres troubles comme les dos cassés, les lombalgies, les sciatiques, les hernies discales. Il y en a une quantité, mais c'est des troubles qui souvent ne sont pas reconnus comme étant des maladies professionnelles, alors qu'en réalité ils viennent du travail qu'elles font. Les principaux facteurs de risque sont donc les exigences émotionnelles, la mauvaise qualité des relations de travail, l'absence de soutien et de reconnaissance du travail, les humiliations et les conditions physiquement dégradantes. On peut citer par exemple des femmes de ménage à qui leur employeur ne fournit pas de gants de protection alors qu'elles utilisent des produits d'entretien toxiques. Et certaines femmes enceintes travaillent dans des conditions de pénibilité qui sont telles qu'elles risquent de perdre leur enfant, manutention de palettes, etc. L'employeur montre ainsi clairement qu'il fait peu de cas de la personne. Nous avons également une moindre autonomie dans le travail pour les femmes. Répétition continuelle d'un même geste, 30% des femmes au lieu de 25% des hommes. Ne jamais pouvoir interrompre son travail, 43% des femmes au lieu de 34% des hommes. Elles sont plus concernées par des formes d'organisation qui impliquent des contraintes de temps très fortes. Travail à la chaîne. Travail standardisé dans le commerce et les services, cadence élevée, travail déqualifié pour les caissières, les téléopératrices, etc. Il s'agit de formes diverses d'un néo-taylorisme avec en plus de nouveaux moyens de surveillance continuelle liés à l'informatisation, à la vidéosurveillance et aux écoutes téléphoniques notamment. Donc, un facteur de risque psychosociaux tient aussi à l'insécurité de la situation de travail, cela aussi bien pour des personnes en CDD que pour des personnes en CDI, car dans certains cas, il y a des conditions de travail dont on sait qu'elles sont impossibles à soutenir dans la longue durée. Il y a plus d'agressions verbales, des insultes, du mépris, des atteintes à la dignité pour les femmes. Par exemple, les caissières sont soumises aux agressions de clients. En ce qui concerne le harcèlement au travail sous toutes ses formes, il est perçu un peu plus souvent par les femmes que par les hommes. Toutefois, les enquêtes officielles le mesurent très mal. Il faut en effet croiser la variable de genre avec d'autres variables, la catégorie professionnelle, le diplôme, etc. Et la différence de ressenti du harcèlement peut être liée à une différence de position hiérarchique ou à la répartition des tâches sexuées.
Il y a en effet un caractère harcelant de la relation hiérarchique liée aux modalités de surveillance pour la main-d'œuvre d'exécution. Et puis le fait de changer très souvent d'horaire en étant prévenu au dernier moment. Et qu'un employeur ne respecte jamais la vie privée de ses salariés. Par exemple, il les appelle la veille au soir ou même pendant la nuit pour leur demander de venir travailler le lendemain matin. Tout ça peut être ressenti comme du harcèlement. Et le fait d'être soumis à des injonctions contradictoires et à des objectifs intenables est davantage propre à des professions intermédiaires ou de cadres où il y a davantage d'hommes. Plusieurs formes de harcèlement touchent fortement les femmes, le harcèlement sexuel ou celui à l'égard de femmes enceintes. Car, et j'en ai rencontré des cas, il se trouve que certains hommes détestent particulièrement les femmes enceintes. Le harcèlement horizontal, celui qui vient de collègues hommes, quand une femme accède à un poste à responsabilité qui est convoité, justement, par certains hommes dans la même entreprise, et surtout lorsque ce type de poste est assez rare. Le harcèlement vertical, qui est lié à la surdiplomation quand un supérieur hiérarchique voit arriver une femme plus diplômée que lui, qui pourrait rapidement prétendre occuper son poste, si elle connaissait mieux le service, mais il va rapidement chercher à la casser. Donc, dans la réalité, ces situations sont systémiques. Toutefois, les femmes se plaignent peu. Elles acceptent davantage ce type de situation que les hommes. Et elles ont surtout peur de parler de ce qu'elles vivent, car cela risque peut-être d'aggraver leurs problèmes au travail. Donc, par exemple, le harcèlement sexuel reste souvent tabou. Et les personnes qui pourraient témoigner de ces questions dans leur entreprise craignent d'être sanctionnées ou même licenciées. Daniel Kergoat dit que la domination de sexe existe autant dans l'entreprise que dans la sphère domestique et elle implique un rapport hiérarchisé entre les sexes. Les femmes ont plus de contraintes de temps du fait que le travail domestique s'ajoute au travail professionnel. Sur le plan du partage des tâches au sein du couple, les évolutions sont très lentes. Et les employeurs ne font pas non plus d'efforts pour respecter la vie privée des salariés. Il faut le dire, ça ne change pas beaucoup. Marie Peset a constaté qu'il y a un grand nombre de femmes parmi les personnes qui viennent à sa consultation sur la souffrance au travail. Elle parle aussi de situations d'impasse sur le plan de la vie privée, voire de la renonciation à la vie affective de la part de certaines femmes pour pouvoir assurer dans leur travail. Et je l'ai constaté moi-même pour beaucoup de jeunes femmes, notamment diplômées, qui restent seules et sans enfants. Il y a énormément de problèmes liés aux horaires atypiques, travail en soirée, de nuit, le week-end, qui concernent de plus en plus de femmes et notamment 40% des mères de jeunes enfants. Les difficultés d'articulation des temps de vie sont évoquées beaucoup plus souvent pour les femmes que pour les hommes, parce que les hommes arrivent généralement davantage à répercuter les effets d'une surcharge de travail professionnel sur leur épouse ou leur conjointe. Avec la variabilité des horaires, une épée de Damoclès est suspendue sur la tête des femmes qui ont des enfants et surtout mères isolées. Il y a une possibilité d'un retrait des enfants par une assistante sociale si la mère manque plusieurs fois de venir chercher les enfants à la sortie de l'école ou si des voisins observent que les enfants restent seuls chez eux. Et certaines femmes qui gagnent très peu d'argent doivent payer quand même quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants le soir, par exemple, si elles rentrent tard. Ensuite, donc, il faut croiser les variables de genre avec d'autres. Alors, par exemple, la catégorie socio-professionnelle. Nous voyons que dans les milieux plus aisés, la prise en charge des tâches parentales et domestiques par une personne extérieure au ménage peut permettre de dégager les membres du couple de ses préoccupations et donc d'augmenter leur disponibilité à l'égard de l'entreprise. Ce sont surtout donc les femmes immigrées pour lesquelles il y a de très nombreux problèmes car en fait elles sont soumises à de nombreuses formes de discrimination. Et un recrutement souvent sur des segments particuliers comme dans la sous-traitance, avec un taux très élevé de contrats à durée déterminée et de travail à temps partiel imposé. Donc les femmes immigrées et les sans-papiers encore plus constituent une main-d'œuvre captive dans certains secteurs, nettoyage, service à la personne. Et là, je reviens un peu parce que dans les années 80, j'avais fait des recherches au sujet de la... Mais à l'époque, c'était les hommes immigrés qui travaillaient dans l'industrie. La main-d'œuvre immigrée masculine dans l'industrie, elle était soumise à une gestion à haut turnover, donc une gestion très particulière. Et la période d'activité de ces hommes était tout à la fois souvent intensifiée et écourtée. Hein. C'était, il y avait donc une rotation, et ce qui permettait une très forte intensité du travail, et l'employeur ne se préoccupait pas du tout de ce qu'allait devenir la personne quelques années plus tard. Bon, moi, je retrouve un peu ces aspects-là pour les femmes. Nous avons également des formes de surexploitation pour les jeunes femmes et une stigmatisation, surtout des jeunes femmes de milieux populaires, avec une assignation à la fonction de reproduction. Elles sont, par exemple, maintenues dans les contrats précaires et souvent en marge du monde du travail jusqu'à ce que leurs enfants aient atteint l'âge de 10 ans. Elles sont très fortement concernées par le harcèlement sexuel et dans certains métiers du commerce ou des services, l'apparence physique compte énormément. Et les femmes de plus de 35 ans doivent se reconvertir. Bon, les hôtesses d'accueil, par exemple. On a des morts subites de jeunes femmes, et ça, Marie Pesé en parle dans son livre. Elle cite le cas de la mort subite d'une femme cadre qui avait 30 ans, qui avait tout sacrifié jusqu'ici pour son travail et qui finalement s'est rendu compte qu'on ne lui donnait pas le poste qu'elle attendait et qu'on cherchait à la court-circuiter au niveau de son emploi. Et ça, j'ai rencontré des cas comme ça, moi aussi, des femmes diplômées en journalisme, architecture, enseignement, etc., qui travaillent énormément en début de vie active pour essayer d'acquérir un métier et de se faire une place. Et elles repoussent le moment de faire des enfants. Et puis, vers 30 ans, elles se retrouvent mises à l'écart, car elles sont censées se consacrer à une famille qu'elles n'ont d'ailleurs souvent même pas construite. Et donc, moi, il me semble que c'est un mode de gestion. Hein. Une femme travaille énormément jusqu'à 30 ans, puis personne ne s'occupe de ce qu'elle devient. Et on a aussi des femmes dont la situation professionnelle a été remise en cause dès la naissance de leur premier enfant. Hein. J'ai vu, par exemple, une femme cadre dans la production audiovisuelle qui a été licenciée après avoir eu son premier enfant, car elle ne pouvait pas assister à des réunions d'organisation de son service après 21h le soir. Les réunions avaient toujours lieu après 21h. Voilà. Donc, elle a été licenciée. Bon, elle n'a jamais eu d'autres enfants, évidemment. Voilà. Et donc, ces situations de harcèlement à l'égard de jeunes femmes sont suivies ensuite d'une relégation dans la précarité, et souvent la précarité à vie. Donc, les femmes âgées... Compte tenu de l'intensité du travail, beaucoup de postes entraînent une usure physique rapide. La période d'activité... Bon, là, j'ai le cas, par exemple, des femmes de chambre dans l'hôtellerie qui ont fait, d'ailleurs, de nombreuses grèves depuis 10 ans, car au bout de 10 ans, elles sont complètement usées. Donc, la période d'activité est souvent réduite à une tranche d'âge entre 25 et 50 ans. Et en deçà et au-delà, les taux d'activité chutent. Par exemple, après 50 ans, on se rend compte qu'une femme sur deux ne travaille pas. Et les femmes de plus de 50 ans ont beaucoup de problèmes pour se reconvertir. Elles se retrouvent souvent en invalidité et en temps partiel, avec un statut de travailleuse handicapée, avec une allocation pour adultes handicapés ou un RSA. Et par exemple, dans les métiers où il faut faire face à un public, on a une exclusion des femmes âgées, car il ne faut pas avoir trop de marques de fatigue ni de problèmes de santé. Voilà, donc depuis les années 80, nous avons un émiettement des emplois qui est systématique et considérable. Et donc on peut dire que la main-d'œuvre féminine n'est pas gérée comme les hommes, parce qu'il y a une individualisation des contrats. Une individualisation aussi de la durée du travail et des horaires de travail, et ça, on le voit moins pour les hommes. À partir de là, il y a un risque d'essentialiser des comportements féminins qui tiennent en réalité à ces modes de gestion et aux conditions d'emploi qui sont faites aux femmes. Elles sont mises en concurrence les unes avec les autres, et elles doivent, bien sûr, s'entendre bien avec leur hiérarchie si elles veulent obtenir plus d'heures à faire. Parce que quand on n'a que 15 heures de travail par semaine, on ne vit pas, donc on essaye d'en avoir plus. Et on a aussi une absence de reconnaissance des qualifications des professions dites féminines, entre guillemets, qui font appel à des qualités des femmes considérées comme naturelles ou innées. Et de façon générale, énormément d'employeurs cherchent à dévaloriser les femmes pour les sous-payer et pour les piéger dans les emplois les moins valorisants. À l'intérieur des entreprises, on a un processus de déqualification sur qualification de la main-d'œuvre, ce qui avait déjà été dit par beaucoup d'auteurs. Et les femmes sont tout particulièrement affectées. Ce sont des processus de décomposition et de recomposition des savoirs, des qualifications, et avec à chaque fois une concentration des tâches plus qualifiées sur des catégories masculines. Donc, beaucoup de femmes n'ont jamais accès à une formation professionnelle qualifiante. C'est vraiment une très grosse bagarre pour obtenir une formation qualifiante, ce qui est quand même décisif pour pouvoir obtenir au bout un emploi intéressant. Et les données chiffrées sur la formation professionnelle continue montrent des écarts très importants entre les hommes et les femmes. Les stages concernent presque très peu les catégories les plus basses d'ouvriers et employés, relativement aux autres. Et ils concernent moins souvent les femmes que les hommes et encore moins souvent les salariés précaires ou à temps partiel. Donc, en ce qui concerne les possibilités de promotion, moi je résumerai en disant on donne à ceux et à celles qui ont déjà, alors qu'il faudrait donner davantage à celles qui ont moins. Nous, on est actuellement dans une logique d'accumulation des avantages ou des désavantages. Et souvent, au bout du compte, les postes intéressants vont être attribués à des hommes ou bien à des femmes de niveau social, de catégorie sociale plus élevée. Et ben, je dirais quand même, pour pas être trop pessimiste, que certaines femmes arrivent maintenant à sortir de toutes ces situations de domination dans lesquelles se conjuguent l'oppression patriarcale et l'exploitation capitaliste, et elles constituent des solidarités au niveau de leur collectif de travail. Quelquefois même, elles constituent des espaces de valorisation avec des associations ou des activités indépendantes. Il y en a énormément aussi. Et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de perspectives de ce côté-là. Et bon, mon seul petit problème qui reste toujours une inquiétude pour moi, c'est que je pense que dans le monde du travail, la valorisation, il reste toujours un petit conflit, un hiatus entre l'individu et le collectif.
Et pour me faire venir d'une voix qui frissonne, il suffit de redire.
Alors, Anna Azaria, de l'organisation de Femmes Égalité.
Voilà. Qui lutte depuis très longtemps pour les femmes uniques.
Voilà. Luttons depuis très longtemps pour les femmes. Bon, avant tout, les intérêts et les aspirations des femmes des milieux populaires, dont les femmes sans papiers. Alors, moi, je vais parler surtout des métiers féminisés, des conditions de travail dans les métiers féminisés, c'est-à-dire des métiers qui sont exercés majoritairement par des femmes. Donc, ce sont les métiers qu'Odile a aussi évoqués tout à l'heure, des métiers où les compétences professionnelles ne sont pas reconnues, où les salaires sont très très bas et où la précarité est aussi concentrée. Mais je vais parler principalement de la pénibilité de ce travail, de ces métiers, qui est considéré, les idées reçues considèrent ces métiers comme des petits boulots faciles, hein, et qui ne sont pas très fatigants. Et donc les pénibilités non reconnues ne sont pas du tout payées. Alors, on va partir des critères de pénibilité qui ont été élaborés par les syndicats et par le patronat en 2008. Et il y a une liste des 12 critères. J'ai retenu 8. 8 parmi 12, c'est déjà pas mal, qui s'appliquent au métier féminisé. Travail répétitif. Le travail répétitif, déjà, les ouvrières principalement dans l'électronique, dans le textile et dans l'agroalimentaire, c'est un travail répétitif avec des cadences infernales. Mais aussi les caissières et aussi les manutentionnaires dans le commerce et un travail répétitif. Le travail permanent sur écran, ben, tous les agents administratifs sont en permanence sur écran et tous les télétravails et toutes les plateformes téléphoniques, ils sont, c'est où on trouve beaucoup, beaucoup de femmes, sont en permanence aussi exposées et travaillant avec l'écran. Travail morcelé, c'est-à-dire abandonner une tâche pour une autre qui est plus considérée plus urgente. Ça, c'est le travail quotidien de tous les agents administratifs, notamment des secrétaires qui sont en train de faire un travail et qu'on leur ramène un deuxième en disant que c'est très important, qu'il faut le finir tout de suite pour lui apporter après un troisième, que c'est aussi encore plus important que le premier et le deuxième. Et donc, elle s'attaque au troisième et à la fin de la journée, elle doit finir les cinq. D'accord ? Donc, je commence, je me concentre, je l'ai, je prends un autre, je me concentre, je l'ai, je prends les troisièmes, je me concentre, je l'ai, je reviens au premier, je me rappelle ce que j'avais fait. Donc, c'est du travail, c'est aussi une pénibilité. Les postures contraignantes. Les postures contraignantes, les caissières, les femmes des chambres, les femmes du nettoyage, qui doivent se pencher toute la journée. Dans les services à la personne aussi, postures contraignantes. Dans la santé aussi, quand il faut porter les malades, ce sont des postures contraignantes. Le port des charges lourdes, bah, dans les commerces, les palettes pour les manutentionnaires, parce qu'il faut faire les rayons, ranger les marchandises sur les rayons. Les aides-soignantes, avec les chariots, avec les plateaux repas, ce sont des chariots terriblement lourds. C'est elles qui poussent ces chariots. Les infirmières avec les malades qu'il faut déplacer, qui sont aussi terriblement lourds. Les femmes qui travaillent dans les services à la personne, qui accompagnent les personnes âgées et qui doivent leur faire la toilette et qui doivent aussi les déplacer, c'est aussi des ports de charges lourdes. Environnement agressif, c'est-à-dire le bruit, exposition aux infections, agression verbale, ça c'est tous les jours dans le commerce. Exposition aux produits chimiques, les femmes du nettoyage, que souvent on ne leur donne pas des gants. Hein. Elles sont exposées quotidiennement à des produits chimiques, et j'ai oublié dans les ports des charges lourdes, et celles qui font les nettoyages dans les espaces, les bâtiments, de Paris, il n'y a pas des endroits où sont entreposés les produits. Elles portent elles-mêmes, elles sortent le matin avec 30 litres d'eau et aussi les produits chimiques qu'elles vont porter toute la journée au fur et à mesure qu'elles passent d'un immeuble à un autre. Tout ça n'est pas connu. Le travail des nuits, il y a 1 million de femmes qui travaillent la nuit. Et il y a le projet d'avant-garde de Carrefour de commencer à faire travailler la nuit un certain nombre de manutentionnaires. Alors, là, il y a déjà 8 critères. On n'a pas parlé du stress ou de l'harcèlement qui ne sont pas considérés comme des critères de pénibilité. Ils ne figurent pas sur la liste des 12. Alors, je voulais parler en particulier d'autres pénibilités dans les services à la personne, mais elles vont parler beaucoup plus que moi, parce qu'il y a 4 femmes qui travaillent dans ces secteurs, qui sont là. C'est par rapport à la grande responsabilité de ce travail qu'elles sont avec des personnes âgées et avec des enfants, ou parfois c'est aussi des vies qui sont, parce qu'il peut y avoir des accidents, qui n'est pas considéré, et cette maîtrise de l'émotion, parce que souvent, elles sont des situations difficiles et elles doivent garder le calme et se maîtriser de l'émotion en étant toutes seules. Parce qu'il n'y a pas des collègues, il n'y a pas un supérieur, il n'y a pas quelqu'un qui doit pouvoir, qui peut conseiller. Elles sont toutes seules, elles doivent prendre sur elles, elles doivent maîtriser cette émotion, elles doivent rentrer chez elles. Et parfois, la personne âgée qui est restée toute seule à la maison et reste dans les têtes pendant toute la nuit. Donc ça, c'est aussi une pénibilité. Sans parler du fait que ces femmes, quand elles sont déclarées, on ne leur reconnaît aucun droit parce qu'on ne considère pas qu'elles sont salariées. Et la plupart des fois, elles ne sont pas déclarées et encore moins celles qui n'ont pas des papiers. Ça, c'est aussi une pénibilité. C'est une angoisse quotidienne. Alors, Odile a parlé des troubles musculosquelettiques. Bon, je vais dire TME, c'est plus facile. C'est 80% des causes des maladies professionnelles. 80%. Et 58% des personnes atteintes des TMS sont des femmes. En 2010, ces troubles, ces TMS ont été diagnostiqués à 15% des femmes qui ont consulté des médecins et à 11% des hommes. Donc c'est quand même très très répandu, les tendinites, les syndromes du canal carpien, les lumbagos. Mais dernièrement, bon, c'est très répandu, les tendinites et les syndromes du canal carpien, c'est très répandu dans les commerces, et les agents administratifs. Mais dernièrement, les nounous. Les nounous parce que les dernières poussettes, c'est pratiquement des tracteurs. Les dernières poussettes sont terriblement lourdes. Et parfois, quand elles font garde partagée, on leur met deux enfants dans la poussette. Et donc, c'est très, très lourd. Arrive en premier lieu pour les TMS, les caissières. Deuxième place, service à la personne. Et ça, c'est pas non plus très connu. Alors, concernant le commerce, je veux parler d'un exemple et qu'on peut appliquer à plusieurs autres endroits, du centre commercial de La Part-Dieu à Lyon. C'est un centre commercial où il y a 267 boutiques, où travaillent 2500 salariés. 75% sont des femmes et 81% de ces salariés ont moins de 40 ans. Donc ce sont des salariés jeunes. Il y a en moyenne 100 000 visiteurs par jour. C'est un centre commercial qui est en centre-ville à Lyon, dans une ville considérée, une ville qui est très importante, où il y a une activité commerciale importante. Station debout prolongée, déplacement à pied toute la journée, posture contraignante, gestes répétitifs, port des charges lourdes, tout ça on l'a dit. Mais il y a encore d'autres pénibilités. Le bruit, la lumière artificielle, la foule, le manque de propreté, l'alternance entre la chaleur et les froids et la chaleur. Récemment, il y a eu une étude faite par le cabinet Émergence à la demande du syndicat CGT, il y a un syndicat des sites, c'est centre commercial, et ce cabinet écrit dans son étude que la pénibilité physique de ces centres commerciaux se situe à proximité de celle du secteur de la construction et de l'hôtellerie et la restauration. Les conditions de travail provoquent une usure, dit toujours ce cabinet, prématurée, qui est équivalente à celle relevée dans le bâtiment. Les salariés de ces centres commerciaux des moins de 30 ans ont des troubles de santé proches des salariés de plus de 50 ans. Donc, ça va dans les sens de ce qui a été exposé tout à l'heure. Ce sont des métiers qui provoquent une usure très, très rapide. Très rapide. À ça, il faut ajouter la pression économique. Minimum d'espace de vie pour un maximum de rentabilité financière. C'est-à-dire que les loyers pour les boutiques sont très très chers. Donc la boutique cherche à rentabiliser. Donc la boutique va louer un espace très très petit, réduit. Et il n'y a pas de place pour ce qu'on appelle les espaces sociaux. Qu'est-ce que c'est un espace social? Une pièce où on peut, une pièce pour la pause, pour prendre une pause, pour prendre un café, pour déjeuner. Il y a à l'entrée des boutiques un rayon optique qui comptabilise les nombres des clients qui rentrent, qui sortent de la boutique. Et les soirs, il y a une comparaison entre les nombres des ventes et les nombres des clients qui sont rentrés, et les vendeuses doivent rendre compte de pourquoi tous les clients n'ont pas acheté. Parce que cela veut dire qu'elles ne font pas bien leur travail. C'est un harcèlement quotidien. Ça s'est fait tous les soirs. Il y a un point qui est fait tous les soirs concernant l'entrée et la sortie des clients et le nombre de ventes réalisées dans la journée. Propreté. Dans cette arrière-boutique, sont concentrés les cafards et les souris parce qu'ils ne sont pas dans la partie vente. Et il faut savoir que c'est dans cette arrière-boutique qu'elles mangent. Donc, c'est un manque de propreté. Et finalement, la lumière artificielle et le bruit, et le bruit de la foule, la musique, les animations, quand il y a des promotions, quand il y a des ouvertures, quand il y a des fêtes, les jets d'eau, parce que parfois ils mettent des jets d'eau pour faire joli, disent-ils, les serres de jeux pour les enfants, c'est un bruit insupportable. Et 27% des salariés de ces centres commerciaux ont des troubles du sommeil. Ils n'arrivent pas à dormir le soir et il y a un fort pourcentage de dépression. C'est toute cette souffrance au travail qu'on ne la voit pas. Les centres commerciaux, nous les fréquentons tous les jours. Tous les jours, non, heureusement. On essaie de limiter, mais fréquemment. Déjà, quand nous, on y va 2 heures, c'est intenable. Imaginons-nous ce qui est 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures. Donc, c'est vraiment une souffrance quotidienne qui est très, très difficile. Alors, l'ANI, l'accord qui vient d'être signé, qui va accentuer la flexibilité du travail et qui va permettre que le travail à temps partiel soit maintenant institutionnalisé comme un moyen pour gérer la main-d'œuvre. À ça, nous ajoutons donc les horaires atypiques, le fait qu'on peut vous changer l'horaire du jour au lendemain, que ça va se passer comme ça, mais non, et les travail du dimanche, les travail des jours fériés et les ouvertures en soirée. Il faut savoir que quand un centre commercial ouvre un jour férié, si une boutique n'ouvre pas, elle paye une amende. Donc, les boutiques sont obligées d'ouvrir. Bon, face à ça, il y a des résistances. Il y a des résistances importantes. Hein, à la part Dieu, ils ont créé un syndicat des sites. Et ils sont beaucoup des syndiqués. Ça, c'est encourageant. Il y a des luttes dans les commerces, elles en parleront tout à l'heure, les femmes des chambres dans l'hôtellerie aussi. Dans les services à la personne à Grenoble, elles ont fait dernièrement des grèves pendant plusieurs semaines parce qu'on leur a enlevé un certain nombre d'acquis, ce qui est très encourageant parce qu'elles sont éparpillées, elles sont arrivées à se retrouver et dans les squares. C'est dans les squares qu'elles sont. C'est dans les squares qu'elles discutent. Bon, nous, on le savait, nous, on diffusait dans les squares. C'est comme ça qu'on a trouvé les femmes sans papier dans les squares. C'est dans les squares qu'elles sont. C'est les squares qui se sont transformées en salles de discussion pour se mettre en contact entre elles et pour lancer une grève. Il y avait la CGT qui était dans les squares, qui traînait dans les squares. Et donc, il y a eu des grèves. Donc, je parle de toutes ces mobilisations. Là, il y a 50 pages de luttes, mais c'est épuisé. Donc, on va le ressortir. Hein, au bas salaire, rien d'impossible. On va le rééditer. Oui, ça, on peut le faire circuler parce qu'il y a 50 pages de luttes dans des secteurs très différents. Et ce qu'on veut, c'est faire connaître ces luttes parce que ce n'est pas des luttes qui vont occuper la une hein, des journaux. Les faire connaître, la campagne pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes a démarré sur cette question, sur les bas salaires, sur celles qui sont en bas de l'échelle salariale, pour demander un certain nombre d'exigences concernant l'augmentation des bas salaires. Donc vous avez une pétition que vous pouvez signer. Et il y a aussi, le 9 juin, on organise une marche des femmes contre l'austérité. Et ces femmes-là sont celles qui payent le plus dur la politique d'austérité du gouvernement actuel. Et bon, le précédent aussi, mais le comble, c'est que ça continue et que c'est de pire en pire. Donc, on fait une marche et l'idée est de faire sortir ces femmes de l'ombre et qu'elles puissent faire connaître leur lutte et leurs revendications. Hein, cette marche a été lancée par 150 femmes syndicalistes militante politique, associative et féministe. Et l'esprit de cet appel, c'est d'avoir mis aux côtés des femmes députées, des femmes sénateurs, des femmes très connues politiquement, des femmes qui sont connues dans leur quartier, dans leur square, dans leur usine, dans leur magasin, de par les luttes qu'elles mènent, parce que c'est cette force-là qui vraiment peut permettre de faire bouger les choses. Voilà, merci beaucoup.
Je travaille à la ville de Paris et je suis syndicaliste. Juste pour reprendre, moi je trouve que c'est très important justement d'avoir des espaces où on parle aussi en tant que femme sur ces questions de souffrance au travail et de travail, parce que même si la lutte des classes est bien là, il y a des discriminations qui s'accumulent, qui s'articulent. Donc je ne suis pas du tout en effet pour opposer les choses et je trouve ça bien, notamment dans ce que vous avez développé, ce qu'on voit souvent, c'est l'articulation des discriminations dites raciales, dites en tout cas de genre et de classe. Et je pense qu'on a tellement de boulot à faire sur ces questions-là qu'on a à prendre le temps d'en discuter et pas les évacuer tout de suite en disant « Oh, mais femmes, c'est la même chose et tout ». Donc je pense que c'est important ce genre de débat. Et sur les questions, je vois la ville de Paris, hein, quand on parlait des congés maternité dont tu parlais, c'est incroyable, nous aussi, on est un peu comme chez vous, hein, on est une belle entreprise, on est un service public à l'origine, hein, mais qui parle beaucoup d'égalité professionnelle, et quand on demande très concrètement comment, sur l'accès à des titularisations, des femmes en congé maternité ne vont pas, si vous voulez, être reportées à plus tard leur titularisation, on nous dit « Ah bah ouais, mais c'est pas de notre faute si elles sont enceintes, qu'est-ce qu'on va faire ?» Je dis « Bah vous faites des sessions en plus, quoi, c'est tout, quoi. » Ah bah ouais, mais ça va prendre des salles et du temps pour les intégrer. C'est pas notre problème, quoi. Oui. C'est l'égalité de traitement, quoi. Et donc, il y a vraiment des questions très spécifiques où je pense qu'en tant que nana, on oublie de les défendre. Et donc, il faut que nous, on en parle. Il faut que nous, on en parle. C'est pas... c'est des droits qu'on a du mal à la force d'accepter qu'on en a et qu'on a le droit de se battre. Donc, je pense vraiment important de le dire. Et d'en parler. Juste un petit témoignage sur ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec une grande réforme qui va être mise en place dès septembre à Paris, qui est la réforme des rythmes éducatifs. Vous savez, il paraît que c'est mieux pour les enfants. Très concrètement, la ville est en train de proposer, alors elle a essayé de vendre cette réforme, notamment en disant que ça allait réduire la précarité. Parce qu'à la ville de Paris, il y en a un certain nombre et qui touche en particulier les femmes. Alors, ce qu'on a appris, alors, il faut savoir que l'élu en charge du personnel pour la ville de Paris vient du monde de la grande distribution. Alors, elle connaît bien ce que vous avez vécu et elle sait bien. Et elle nous l'a redit. Écoutez, le temps partiel à la ville de Paris, on en a besoin. Donc, vous n'allez pas nous demander de le réduire. On en a besoin. C'est comme ça que ça fonctionne et tout. Bon, alors, on porte évidemment d'autres revendications. Mais là, ils sont en train d'avoir des trucs super subtils. C'est-à-dire que vous savez que dans l'animation, par exemple, vous avez beaucoup de vacataires, hein, en particulier des femmes. Ils vont non pas, si vous voulez, créer des postes de fonction, c'est un peu technique, hein, je ne veux pas être trop, mais ils vont créer des CDI, vous savez, dans la fonction publique, ouais, je pense que c'est objectif. Hein. Des CDI à temps incomplet pour des vacataires qui sont là depuis 6 ans, donc ils sont à l'inégalité. Hein. Et ces CDI à temps incomplet vont être morcelés à 800 euros, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Hein. Oh. À 800 euros, mais en fait, tu pourras choisir, n'est-ce pas ? Parce qu'on a le choix quand on est précaire, différentes plages horaires dans la semaine, tu seras payé 800 euros, mais tu auras le droit au CDI. Donc, par rapport à la vacation, quelque part, c'est mieux, parce que tu as enfin le droit d'être malade, tu as enfin quelques congés payés et tout. Sauf que, ils vont garder la logique de vacation en faisant faire que les vacataires à la ville de Paris pourront travailler plus de 910 heures. Vous n'avez pas le droit jusqu'à 2 semaines. Mais ceux qui vont rester vacataires, ils gagneront plus que les CDI à temps complet. Sauf que les vacataires, ils n'ont aucun droit. Alors, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer actuellement, ils discutent, ils voient jusqu'où ils peuvent aller, mais de nouvelles formes de précarisation et de morcellement du travail, et en s'appuyant sur le fait que, bah ouais, mais il y a aussi beaucoup de femmes, souvent, elles ont leur vie de famille et tout, alors on est là aussi quelque part, on les aide, quoi, avec ces boulots complètement précaires et dégradants. Et là, on voit bien comment on utilise aussi du côté de l'employeur les situations en effet spécifiques des femmes.
Bien sûr.
Qui là, donc c'est en cours. Je sais qu'il y a des réunions du personnel actuellement pour informer, parce que évidemment, enfin, la ville dit ce qu'elle va faire pour son personnel, ce qu'elle ne disait pas auparavant. Donc, on est face à quelque chose d'un peu important. Et moi, je pense, par rapport à tous nos échanges ce soir, c'est que je pense qu'il y a des luttes ici et là qui existent, qui sont quand même super complexes, parce qu'on a dit les conditions dans lesquelles Nana les porte. Et que, Anna, tu parlais tout à l'heure de la marche du 9 juin. Je pense qu'il y a des moments, qui se créent. On essaie de faire un mouvement de marche de femmes postérité. Je pense qu'il faut s'en saisir. Je pense que moi, j'étais pas là, je suis même. Il y a eu des gens dans la rue, ça fait du bien. C'est des moments aussi où on se donne confiance, on se rencontre. Et on peut aussi retrouver de l'énergie pour retourner dans des luttes locales, pour se rencontrer et pour donner des forces en termes de parler de convergence de lutte. Et je pense vraiment que là, en plus, c'est une marche qui se passe un dimanche. On peut sortir dans la rue sans avoir peur par son patron et tout. Moi, je pense, enfin, nous, on va essayer, côté là où je bosse, bah, d'essayer de donner envie à des nanas de venir, des mecs aussi, mais vraiment pour bah, participer un peu à cette reconquête de visibilité et puis de se donner de l'énergie pour les luttes à venir. Sachant qu'il y a aussi, Anna, je pourrais peut-être le rappeler, un blog où des gens peuvent témoigner s'ils le souhaitent, si elles le souhaitent. Voilà.
Une annonce, le 19 juin à 18h30 à Bourse du Travail, réunion publique du réseau Stop Stress Management sur la souffrance au travail des salariés de la Poste. Cette émission se termine, je vous remercie de l'avoir suivie. N'oubliez pas de rester vigilant et surtout, surtout, ne lâchez rien. Un très gros bisou aux filles et une grosse poignée de main aux garçons. Salut.
La table sera mise quand vous arriverez, amis, amours, amants et autres associés. Vos noms seront...